1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yana avec vous sur Canal V, l'émission Le Grand Tour en direct du lundi au vendredi, 16h30, 17h40, rediffusion du mardi au samedi matin dès 8h30, pendant 1h10 aussi, donc jusqu'à 9h40 à peu près. Vous retrouvez les playlists et écoutes sur canalb.fr. Aujourd'hui, une émission très très variée puisqu'on ira devant et bien de ces deux albums découvertes pour la radio Ferrara, que vous les entendez déjà depuis lundi dans l'émission, ces albums de O.O. et puis aussi de ce trio nommé Killus High, Bass Bass et Chiki. Vous retrouverez toutes les infos sur ferrarock.org. Avant ça, des infos concerts, Société Étrange, notamment le 22 novembre à Rennes. Et puis aussi, avant ça, un concert ce samedi ou le samedi 16 novembre, la semaine prochaine, du côté de La Paillette pendant Jazz à l'Ouest. Ce sera le Grand Groove Orchestra. Avant ça, on évoquera un hackathon qui permet eh bien, à quelques étudiants et étudiantes de plancher sur le sujet de la communication visuelle accessible. Un hackathon de design graphique et accessibilité qui se tient à l'Hôtel Pasteur cette semaine. On en parlera avec nos trois invités, Sabrina Morisson, Laurence Schulz et puis Marie Chardonnet. Avant ça, eh bien, c'est Emma qui a pu rencontrer la réalisatrice Marion Boé autour de son film Un pays de papier, montré pendant le mois du doc grâce à Comptoir du Doc en Ille-et-Vilaine. Et puis on pourra aussi découvrir une nouvelle rubrique, une nouvelle chronique hebdomadaire pour l'instant, proposée par PM Pierre Maël, volontaire en service civique à Canal B cette année. Ça s'appelle Over and Over, c'est la première aujourd'hui et c'est l'idée de vous faire découvrir ces sélections à Lyon. On commence directement l'émission avec, comme pas mal de fois cette semaine, un extrait de l'excellent album Ventre Unique, le 6e album pour les Suisses d'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Ils seront à Rennes la semaine prochaine pour participer à Cool Thing à l'Antipode. On en parlera dès vendredi avec le contrebassiste Vincent, fondateur du groupe, cofondateur du groupe et aussi du label Les Disques Bongo Joe il y a quelques poignées d'années. On écoute aujourd'hui ce titre d'orchestre tout puissant Marcel Duchamp intitulé Speak by the E. Bonne émission.
Stand by your dream.
l'émission Le Grand Tout. Je suis heureux de recevoir la première contribution que vous allez entendre, même si peut-être vous avez déjà entendu des choses enregistrées par Pierre Maël. Bonjour Pierre Maël.
Bonjour.
Mais vous n'avez pas encore entendu sa voix dans cette émission. Vous avez entendu des spots faits par toi.
Oui,
oui.
C'est
Pierre Maël, toi tu es volontaire en service civique cette année à Canal B.
Oui, c'est ça.
Vous avez entendu Emma faire quelques interviews. Eh bien, vous entendrez chaque semaine et puis peut-être plus régulièrement par la suite, Pierre Maël nous proposait Over and Over. Vous avez entendu à l'instant l'indicatif, cette impression de fête foraine qui tourne un peu au ralenti, un peu de travers, ces sirènes pas menaçantes, c'est assez ludique, un côté toy music peut-être dans ce qu'on entendait. C'est pas forcément cette musique ou ce genre de musique que tu nous proposeras à chaque fois que tu proposeras Over and Over, mais le principe c'est ça, c'est je viens avec un morceau que j'ai bien envie de vous faire entendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, voilà, c'est ça Over and Over.
Ouais, c'est ça, bah, découvrir des morceaux de styles différents.
Toi tu es musicien?
Oui.
Tu écoutes surtout des groupes qui t'influencent musicalement ou pas toujours?
Pas toujours, mais c'est vrai que ça peut se retrouver très vite dans la musique que je fais, je pense. Souvent les influences viennent de, ouais, des morceaux que je découvre.
Par modestie, tu as bien sûr souhaité ne pas faire entendre pour l'instant un morceau d'un des groupes dans lesquels tu joues.
Pas tout de suite, peut-être un moment.
Ça va être peut-être la possibilité hein, dans Over and Over, mais là, aujourd'hui, tu nous présentes une sélection. Alors, peut-être une petite carte d'identité de celui ou ceux qu'on va entendre maintenant.
Ouais, bah, du coup, c'est un morceau du groupe Villager, avec 3 R, qui s'appelle Burnout. Et en fait, c'est le projet d'un musicien qui s'appelle Mark Scott, qui a joué avec plein d'autres groupes avant et qui a sorti son projet solo. Et du coup, c'est un nouveau single qui est sorti il y a une semaine.
Ça vient d'où ?
Ça vient des États-Unis, de Columbus, en Ohio.
Alors, tu m'as un peu parlé de ce morceau, comme ça, avant qu'on fasse cette chronique Over and Over. On essaiera d'éviter au maximum de vous abreuver d'étiquettes auxquelles vous ne comprendrez rien, peut-être, parce que c'est vrai que la musique est parfois segmentée en plein de micro-niches, comme ça, de petites cases, où j'imagine, on demande à chacun des musiciens qu'on interroge et ils n'auront pas du tout envie d'être catalogués uniquement avec une étiquette. Mais tout de même, s'il fallait en citer quelques-unes, il y en a des étiquettes un petit peu précises qui concernent le groupe Villagers. Bon,
certains diraient Midwest emo, comme on en discutait avant. Après, il y a des influences un peu de tout, du rock, dans les autres groupes qui pourraient avoir influencé Alex G, où on disait même les Pixies un peu dans le fond, ça pourrait même aller jusqu'aux Beach Boys, ou avec des mélodies très lancinantes et tout ça. Donc c'est un peu un gloubi-boulga de plein de choses, mais qui marchent très bien ensemble.
Tu conseilles l'écoute de ce morceau à qui ? Tout le monde ?
Ouais, tout le monde.
Et à quelle heure on peut l'écouter ce morceau ?
Tout le temps. Mais après, il est assez mélancolique et tout ça, donc je sais pas, peut-être le soir, ça peut le faire. Et je conseille aussi, du coup, l'album de Villager qui est sorti en mars 2022 et qui est très bien aussi.
Et à quel moment d'une playlist tu le conseillerais à ceux qui nous écoutent pour terminer une soirée, pour commencer une après-midi?
Peut-être terminer une soirée, ouais, si c'est vraiment la fin, pour finir tranquillement.
On écoute donc Villagers dans Over and Over. Merci Pierre Maël, on te retrouve très bientôt pour à nouveau nous faire découvrir de la musique Burnout par Villagers.
C'est ça.
Down, but you never.
C'était le titre Burnout par Villager, choisi par Pierre Maël dans sa rubrique hebdomadaire désormais. Over and over, on va poursuivre au Québec, à Montréal, avec Jonathan Persson, musicien qu'on connaît aussi comme étant le guitariste-chanteur du groupe Corridor, et qui propose aussi tout seul quelques très chouettes morceaux comme ce Nuage Noir, un nouveau titre très électrique. On évoquait un peu, pourquoi pas, en fond comme ça les Beach Boys juste avant. Bah là, c'est comme si les Beach Boys avaient fait du shoegaze. C'est comme ça que Jonathan Persson propose son titre qu'on écoute immédiatement. Juste après, eh bien, on poursuivra avec une discussion entre Emma et puis Marion Boé, une réalisatrice dont vous pourrez voir le film projeté pendant le mois du doc, Un pays de papier. Mais pour l'instant, Jonathan Persson, Nuage Noir.
Thank you. Bonjour, c'est Emma. Aujourd'hui, dans la page culture de l'émission Le Grand Tout, nous recevons Marion Boé, réalisatrice. Bonjour Marion Boé.
Bonjour.
Ce mois-ci, c'est le mois du DOC, un festival de cinéma documentaire national, mais qui est, à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, coordonné par l'association rennaise Comptoir du DOC. C'est dans ce cadre-là, et autour du thème de cette année, qui est Porter la voix, qu'une tournée départementale vous est proposée, Marion Boé, pour présenter votre nouveau documentaire, Un pays de papier. Un pays de papier suit pendant un peu plus d'une heure l'avocate Mélanie Leverger, qui s'occupe de mineurs non accompagnés pour les aider dans la jungle de la justice française. Pour commencer, comment vous est venue l'envie de vous intéresser à ce sujet ? Depuis quand l'aviez-vous en tête ? Vous êtes-vous intéressé en premier lieu à un personnage, celui de Mélanie Leverger, ou à un sujet, celui des mineurs non accompagnés ?
En fait, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, des mineurs non accompagnés. C'était avec un ami qui est éducateur à Quimper, qui travaillait avec ce public. Et moi, au début, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y ait des migrants qui arrivent jusque Quimper ? Et puis, surtout, naïvement, je me suis dit, ah, c'est super. Au moins, il y en a certains qui doivent être pris en charge, en l'occurrence par le département, et qui sont accueillis, quoi. Et puis, en creusant un peu le sujet, là, je me suis rendu compte que non, ils n'étaient pas si bien accueillis. Et j'ai cherché par quel biais raconter leur histoire. J'ai discuté avec des éducateurs et éducatrices aussi à Rennes, dont une qui m'a parlé d'une avocate. Et voilà, en cherchant, j'ai pris rendez-vous avec Mélanie. Et puis, dès le premier rendez-vous, je me suis aperçue que, voilà, par son engagement professionnel et personnel, c'était en quelque sorte un super personnage de film, quoi.
Avez-vous eu du mal à la convaincre, cette avocate Mélanie Leverger, d'être regardée par votre caméra ?
Un petit peu, parce qu'elle voulait surtout pas être placée comme une héroïne, parce que... Parce qu'en fait, il y a aussi plein d'autres associations, d'autres avocates qui aident les mineurs non accompagnés et qu'elle fait partie d'un écosystème. Et voilà, elle ne voulait pas être trop mise en avant. Mais bon, en même temps, elle avait envie que ces problèmes puissent connaître un certain écho, et faire un film, c'était l'occasion de pouvoir aussi pouvoir parler de ces difficultés.
On remarque que votre documentaire, en plus d'avoir un regard sur la profession d'avocate, est un portrait de femme aussi. Est-ce que ça faisait partie de vos intentions clairement énoncées ?
Alors, pas au début. Il se trouve que, il me semble que toutes les avocates qui s'occupent de mineurs non accompagnés à Rennes sont des femmes, de toute façon. Bon, après, je pense que pour Mélanie, c'est pas tellement un sujet d'être une femme en tant qu'avocate. D'ailleurs, elle dit souvent qu'elle est avocate et pas avocate. mais voilà, moi, je me rends compte quand même que dans les idées de films que j'ai envie de faire, oui, c'est souvent des femmes fortes que j'ai envie de mettre en lumière.
Quel a été votre rapport avec ces mineurs non accompagnés ? Comment vous ont-ils accueilli, vous et votre caméra ?
Je pense qu'en fait, moi j'arrivais, je leur demandais avant s'ils voulaient bien être filmés, même si je les filmais de dos. Et en vérité, je pense qu'ils ne comprenaient pas trop ce que je voulais faire. Déjà, ils ne comprenaient pas pourquoi ils arrivaient dans le bureau d'une avocate. Donc tout ça est très flou pour eux. Mais voilà, j'insistais pour qu'ils soient d'accord et ils pouvaient à tout moment me dire que finalement ils ne voulaient pas être filmés.
Et vous avez eu des rapports, des échanges avec eux hors caméra ou...
Un petit peu, et puis j'ai fait deux ateliers d'initiation à la vidéo avec des jeunes suivis par Utopia 56. Voilà, je les ai aussi rencontrés dans ce cadre-là, et puis certains, je les ai revus quelques fois.
Et donc, pourquoi avoir fait ce choix de les filmer presque exclusivement de dos ?
Alors, c'était à la base une contrainte, parce que comme ils sont mineurs et qu'ils n'ont pas de tuteurs légaux, je ne pouvais pas avoir une autorisation de droit à l'image. Et puis, en fait, cette contrainte, ça m'a quand même... plus parce que je pouvais aussi me concentrer sur Mélanie, sur son visage, sur son écoute, et j'ai l'impression qu'on écoute presque mieux leurs paroles à eux, aux jeunes. Et puis par contre, j'ai fait le choix après de pas du tout faire de contre-champ non plus sur des mains ou des choses comme ça qui auraient pu aider au montage. Mais voilà, j'ai fait un peu le pari de regarder Mélanie et son écoute et son visage et ses réactions seraient aussi importantes et que ça se passerait bien au montage en tout cas.
Mon frère, salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans. Salut à toi Choli Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais. Salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais.
Vous avez pu entendre à l'instant un extrait de Salut à toi des Berruriers Noirs. Nous recevons aujourd'hui Marion Boé, venue présenter son nouveau documentaire. Qu'est-ce que vous inspire cette chanson ? Pourquoi l'avoir choisie ?
Parce que c'est une chanson qui accueille un peu tous les peuples. Donc forcément, ça a une résonance avec le film.
Et votre militantisme ?
Oui, alors je ne suis pas la plus militante des militantes, mais je le fais d'une autre manière en tout cas.
Donc la programmation du mois du doc, cadre dans lequel est projeté votre film Un pays de papier, s'articule autour du thème Porter la voix. En effet, il porte la voix de cette avocate et de ses mineurs non accompagnés, mais une voix parfois au bord du découragement face au mur que peut représenter la justice. C'est vrai qu'on peut être pris par un sentiment de découragement au visionnage du film, mais c'est sans doute pas ce que vous avez voulu faire naître chez le spectateur.
Il y a une forme de colère et de découragement de voir ce système judiciaire qui maltraite ces jeunes. Mais l'idée, c'était pas non plus de faire quelque chose de trop plombant et de voir que Mélanie et les associations peuvent leur donner de l'espoir et qu'il y a des beaux parcours en fait après qui se dessinent pour eux et elles.
On remarque aussi qu'on ne voit pas les audiences dont on parle tout au long de votre documentaire. En tout cas, elles ne sont pas filmées. Et ce sont des audiences qui sont très importantes puisqu'elles viennent pratiquement sceller le sort de ces mineurs non accompagnés. Mais avez-vous pu assister à quelques-unes de ces audiences ?
Alors non, parce que c'est des audiences qui se font à huis clos avec la juge des enfants. Et puis, surtout, il y avait... Ça a changé de juge en cours de tournage, mais la première était vraiment très dure avec les jeunes. Et donc, quand j'ai fait des demandes, assez logiquement, ça a été refusé. Avec la deuxième juge, j'ai pu aller dans le tribunal et faire quelques images dans le tribunal, mais pas dans le bureau, lors de l'audience. Mais au final, dans le montage, au moment du montage, on n'a pas gardé cette séquence et on s'est concentré... sur Mélanie et sur les séquences dans le bureau. Il y a quelques images aussi, quelques séquences hors du bureau, mais finalement, ça n'a pas trouvé sa place.
Oui, parce qu'on remarque que le reste de la justice, en dehors de Mélanie, donc avocate, demeure hors champ. Et donc, on aboutit à une dépersonnalisation en fait, de toutes ces personnes qui viennent sceller le sort. Donc, ça rejoint aussi le propos de votre film. Qui ont un comportement très froid face à ces mineurs-là, en les accusant de mensonges souvent.
Oui, alors là, la nouvelle juge, un peu moins quand même, mais oui, quand ils sont évalués, on les traite pas directement de menteurs, mais c'est ce qui est dit implicitement, quoi. Et puis oui, c'est une justice qui s'attache au papier, donc qui n'est pas forcément humaine.
Difficile enfin de ne pas faire de parallèle entre votre documentaire et l'actualité des salles de cinéma, puisqu'est sortie en octobre 2024 l'histoire de Souleymane de Boris Lochkine, qui suit pendant 48 heures un jeune émigré guinéen qui prépare sa demande d'asile et son audition. L'avez-vous vu d'abord, et est-ce à votre sens significatif d'une volonté émergente de faire entendre la voix de profils jusqu'ici invisibilisés ou absents, en tout cas des écrans ?
Ouais, je l'ai vu ce film, et c'est vrai qu'il est super, parce que bon, alors c'est pas des mineurs et c'est des demandeurs d'asile, mais ça montre bien l'exploitation qu'ils subissent de toutes parts, en fait, que ce soit dans le travail, pour préparer leur discours pour l'asile, etc. En fait, de toutes parts, ils essayent d'être exploités. Enfin, ils sont exploités, et puis c'est assez déshumanisant aussi d'appeler le 115 tous les jours, etc. Enfin, oui, ça rejoint le sujet.
Enfin, ce documentaire n'est pas votre premier. Pouvez-vous nous dire un mot de votre parcours ?
Oui, alors j'ai fait des études d'audiovisuel. Et puis en 2008, j'ai réalisé un documentaire sur le quartier de mes grands-parents à Quimper, qui est un quartier castor. Donc tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais en gros, c'est 100 familles qui se sont mis ensemble pour construire leur propre quartier dans les années 50. Et à côté de ça, je suis monteuse sur des documentaires aussi. Et donc là, je participe à d'autres films, aux films d'autres réalisateurs ou réalisatrices.
Marion Boé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes réalisatrice du documentaire Un pays de papier, qui fait partie de la programmation du mois du doc. On retient parmi les dates de votre tournée départementale une projection notamment à la bibliothèque universitaire du centre le 14 novembre prochain à Rennes, ainsi qu'une projection le dimanche 10 novembre à Saint-Lunaire en présence de l'avocate Mélanie Leverger et de son assistante. Le reste des dates et des infos sont à retrouver sur le site comptoirdudoc.org.
Salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi Skin Communist, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi Pop Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le Poplovac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à Koutou les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crétien, salut à toi la Vache-Kiri, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Jamawans, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Yves Reiner, salut à toi l'handicapé, salut Jeunesse du monde entier. Salut à tous les paysans, salut aussi à Rotemplan, ça part pas.
dans la page culture de l'émission Le Grand Tout sur Canal B. Je suis heureux de recevoir trois invités autour d'un hackathon en design graphique et accessibilité qui se propose cette semaine du côté de l'Hôtel Pasteur à destination d'étudiants et d'étudiantes en école de design graphique, évidemment. On va en parler avec Marie Chardonnet des Tombées de la Nuit. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et puis aussi Laurence Schulz du Pollen Studio.
Bonjour.
Ainsi que Sabrina Morrison. On dit Morrison ?
Et non, on dit Morrison.
Et non, on dit Morrison. C'est pas les Doors, tout ça, rien à voir.
Et non.
Sabrina Morrison de Ideo Graphique, studio de design graphique aussi.
Pas tout à fait.
Mais basé pas à Rennes du tout.
Et non.
Là, je me trompe pas.
Voilà, c'est ça.
Trenel, exactement.
Exactement.
Et puis, quelles activités ? Alors, si c'est pas vraiment un studio de design graphique ?
Alors, c'est une association qui travaille sur la communication et la lecture. Et donc vraiment dans ces questions d'explorer comment on fait pour impliquer les personnes qui sont en difficulté de compréhension, de lecture, de vision et tout type de empêchement qui vont rendre difficile l'implication dans la vie quotidienne, hein, tout simplement. Et donc on répond à des projets où on va faire de la co-création avec les publics et imaginer de nouveaux supports, de nouvelles manières de communiquer ou d'accéder à la lecture et au livre.
Ideo Graphique était donc plutôt indiqué comme structure pour participer à ce hackathon, donc qui a cours jusqu'à vendredi. C'est plutôt pour les étudiants, je le disais, et qui va avoir pour but de la fabriquer, cette identité graphique, pour le festival Nos Futurs 2025. Ce sera au Champ Libre du 21 au 23 mars prochain. Nos Futurs, vous le connaissez sans doute, cet événement qui est un espace de discussion comme ça autour des thématiques qui peuvent concerner tout le monde, qu'on soit jeune ou pas d'ailleurs, mais l'alimentation, le rapport au travail, la sexualité ou encore les médias. Et c'est une structure à trois parties, peut-être quatre parties finalement. D'un côté, il y a Nos Futurs qui, on l'évoquera, choisira l'identité graphique décidée. Et puis, il y a vos rencontres à vous trois, Pollen Studio, Ideo Graphique et puis Les Tombées de la Nuit. Comment ça naît finalement cette idée de le fabriquer, cette identité, de construire ce hackathon cette semaine à l'Hôtel Pasteur?
Ça naît après un mardi graphique. Les mardis graphiques, c'est des conférences, tables rondes organisées par Pollen Studio depuis 5 ans à peu près, sur le graphisme et une thématique particulière à chaque fois. Et donc, il y a de ça un an, Marie Chardonnet, donc des Tombées de la Nuit, et Clémence Hugo, qui à l'époque était chez Armada Productions, sont venus voir Pollen Studio pour nous demander ce serait sympa de faire un mardi graphique sur l'accessibilité. Et donc pour la première fois, on a inventé ce mardi graphique ensemble. Et donc c'est à ce moment-là, en allant chercher de l'info sur qui était spécialiste de l'accessibilité en graphisme, que j'ai fait la connaissance de Sabrina, que Marie, tu connaissais déjà, je crois. Ouais. Et du coup, on a Sabrina est intervenue à la table ronde. Et puis, en échangeant comme ça, en préparant, et puis en débriefant après le mardi graphique, Sabrina nous a dit, mais en fait, moi j'aimerais bien prolonger ça et réussir à sensibiliser les étudiants en graphisme à la question de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ça vous dirait pas qu'on bosse ensemble sur un hackathon ? Et donc, on en a parlé tout ensemble, et puis on s'est dit, ce serait une super idée. Et donc ça, c'était il y a 2 ans, et voilà, et là, c'est parti.
Un hackathon, pour revenir un petit peu sur les origines qui viennent plutôt du monde de l'informatique, en fait, de faire un atelier, un workshop qui va permettre de faire quoi exactement ? Il se passe quoi ? On a une boîte à outils, et puis on l'ouvre devant soi, et puis on partage les idées qu'on a autour de ça ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je pense que la forme hackathon, c'était aussi vraiment de mettre au défi. La notion de hackathon, c'est vraiment ça, c'est que on se pose une problématique et puis ensemble on va aller chercher des solutions nouvelles qui n'existent pas encore. Et donc là, c'était vraiment ça, puisque la question en fait de l'accessibilité du design graphique aujourd'hui, elle n'est que très peu questionnée ou que très peu abordée dans les écoles et encore très peu dans le monde du design graphique. Et donc là, c'était vraiment cette idée-là de passer une semaine à s'éprouver sur cette question et à aller chercher des solutions graphiques ou autres en fait, pour répondre à comment rester créatif tout en répondant à des questions d'accessibilité.
Et l'idée, c'était de faire ça avec des publics en situation de handicap, c'est-à-dire de mettre des étudiants en groupe avec des personnes soit en fauteuil roulant, soit des personnes malvoyantes, enfin vraiment des tas de types de handicaps différents, pour les faire travailler ensemble sur cette question de l'accessibilité. C'est-à-dire, c'est vraiment une vraie démarche de design. On part de l'utilisateur, un peu comme le font parfois les gens sur Internet, en UX ou en UI. On part vraiment de l'utilisateur et on cherche à trouver des solutions qui correspondent à ces gens-là. On ne travaille pas hors sol. Donc c'était ça, le côté hackathon, c'était ça aussi, c'était cette démarche de se rapprocher au plus près des utilisateurs.
Quand on pense au design graphique, à une identité visuelle par exemple, on imagine surtout que ça va concerner des personnes déficientes visuelles. C'est ça qu'on a en tête en premier. Et pourtant, ce n'est pas le seul public qui peut être intéressé par des réflexions autour de ces identités visuelles-là et de ces designs graphiques. Comment est-ce qu'on va vers des publics empêchés qui, par exemple, sont atteints de phobie sociale, par exemple ? Est-ce que ça, c'est vraiment le plus compliqué peut-être à imaginer quand on a fait des études ou qu'on est en train de les faire de design graphique et puis qu'on ne s'est jamais posé ces questions-là avant ?
Je pense que le point de départ, c'est le fait de se dire on bosse sur une affiche. Mais en fait, une affiche, elle est bien la passerelle entre le festival et le public. Elle n'est pas juste un objet visuel. Donc elle doit bien, elle sert à quelque chose. Elle sert à donner envie, elle sert à faire venir du public. C'est bien cette question-là, en fait, qu'on va venir interroger. Et donc, du coup, ça ne peut pas juste s'adresser à des personnes qui, sur la question de la vision. Si une personne qui n'est pas forcément sur une phobie sociale, mais qui est juste sur un moment de charge mentale importante, n'est pas dans une phase où on voit l'affiche, ça ne marche pas. En fait, il y a un truc où l'affiche n'est pas que quelque chose qui est juste un objet artistique ou un objet visuel, elle a une utilité. Donc c'est vrai que, en fait, nous, le travail qu'on va mener, et c'est un travail qui est rarement dans cette logique-là, donc c'est un peu ce qu'expliquait Laurence, c'est qu'on va vraiment s'interroger sur l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand l'affiche, elle est dans la rue, jusqu'au moment où la personne, elle est sur le lieu du festival. Là, en fait, on va venir chercher plein de freins et d'empêchements qui sont de l'ordre, j'ai l'esprit occupé, je peux pas m'approcher de l'affiche, elle est trop loin, du coup, je vois pas ce que c'est, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'internet, donc je peux pas aller choper les informations sur le site. Enfin, en fait, on va s'interroger à tout ce qui peut faire frein et empêchement pour que la personne, elle fasse bien ce qu'on attend qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'elle réserve sa conférence et qu'elle vienne voir la conférence.
On va peut-être choisir des formes qui seront moins agressives, on va choisir des couleurs qui seront moins agressives, on va choisir des polices d'écriture qui seront lisibles de loin, de près, par toutes et par tous. Ça va vers ça et vers quoi encore ?
J'ai l'impression que beaucoup des choix qui vont apparaître vont aussi apparaître parce qu'ils ont une discussion entre eux et ils vont identifier des problématiques ensemble. Et c'est à partir de ces problématiques-là qu'ils vont se focaliser sur... telle ou telle solution qui permettra de résoudre, les problèmes que les publics sont en train de présenter.
Les étudiants et étudiantes des trois écoles qui participent à ce hackathon travaillent pas tous ensemble, c'est chaque école contre les autres. Comment ça se passe? Vous avez fait un groupe?
Du tout, du tout.
Non, justement, on a voulu mélanger les écoles pour éviter d'avoir les beaux-arts face à un tel ou face à un tel. Donc les étudiants sont vraiment tous mélangés. Ils sont par trois, avec deux personnes du public, donc c'est des équipes de cinq. Et l'idée aussi, c'est qu'ils travaillent sur la base d'un cahier des charges. Il y a une commande. comme tout projet de design graphique, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour répondre à un besoin, comme le disait Sabrina. Donc c'est les champs libres, avec le festival Nos Futurs, qui a rédigé un cahier des charges. Et donc les choix de police, de couleurs, etc. se font de façon à répondre à ce cahier des charges, et en même temps à être accessible. Donc c'est vraiment ces deux objectifs-là que poursuivent les groupes.
Les observations qu'ont pu faire les étudiants et les étudiantes, c'est que souvent, c'est que l'affiche en fait ne venait pas répondre à tous les besoins. Et que du coup, on les a vraiment invités à écrire des préconisations. Et les observations qu'ils ont pu faire et les prises de conscience qu'ils ont pu avoir, c'est vraiment de dire, bah, ok, il y a l'affiche, mais en fait, ça serait super d'avoir quelqu'un à l'accueil. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un à l'accueil? Ça serait bien de pouvoir guider dans la signalétique d'un chemin, d'un point A à un point B. Enfin, du coup, c'était ça aussi, je pense, qui a vraiment été intéressant dans cette semaine-là, c'est qu'ils ont pris conscience que, justement, la question d'accessibilité, elle est bien plus large que juste de travailler sur une typo d'une affiche.
Et on peut imaginer, pourquoi pas, dans un délire fou, d'avoir une signalétique visuelle et sonore. Est-ce que ça allait jusque-là, ce hackathon?
Soyons fous.
Mais carrément.
Ça va aller jusqu'au... Enfin, on leur laisse la possibilité de proposer d'autres choses. La demande de base, c'est ce visuel qui va servir de reconnaissance à l'événement et qui va être décliné partout. Mais on leur laisse la possibilité, s'ils ont d'autres idées, de les apporter. Et comme le disait Sabrina, ce qui est important avec cette semaine, c'est au moins autant le résultat final qu'ils vont proposer au jury, donc ce visuel, que le chemin qu'ils auront parcouru pendant toute la semaine et tout ce qu'ils auront vécu avec les publics, avec le fait de travailler ensemble en groupe à différentes écoles, tout ce qu'ils auront testé, essayé, proposé au public et puis revenu, enfin, ils auront vraiment fait plein de choses, fait plein d'essais, et ce chemin-là est largement aussi important que le rendu qu'ils feront à la fin de la semaine.
Sensibilisation et inclusion, hein, c'est les deux mots maîtres, mais ça va autour aussi, évidemment. On peut très bien imaginer que cette rencontre à trois, hein, entre Idéographique et puis Pollen Studio et Les Tombées de la Nuit, à quatre donc avec aussi Nos Futurs, ce soit une expérience qui se répète à chaque événement qui aura lieu dans le futur, les Vieilles Charrues, le Festival d'Avignon, les Oscars. Ça peut aller loin, cette histoire. C'est ça votre ambition?
Non, on se posait en plus la question, mais qui sait où nous allons après cette expérience?
Vraiment, bah, on fera le bilan, je pense, après le hackathon, mais c'est vrai que là, nous, on est, enfin, moi, je suis scotchée de voir comme ça a marché, l'énergie qu'il y a eu dans les groupes, l'investissement de tout le monde, la réaction des publics, enfin, c'est encore, parce que c'est pas fini, mais c'est une super semaine, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en fera après? Il y aura sans doute un après. On sait pas encore, mais j'espère qu'il y aura un après, ouais.
Il y avait une des questions que vous posiez, hein, que j'ai pu lire dans le dossier de presse de cet événement-là, c'est cette contrainte de l'accessibilité qui pourrait malencontreusement conduire à un appauvrissement graphique. Ça n'a pas l'air d'être le cas.
Bah non, on pense que c'est l'inverse. Que tous ces critères intégrés dans les créations vont être source d'inspiration, source de création même.
On voudrait même montrer que c'est l'inverse. Parce que quand on cherche des exemples aujourd'hui de design graphique intéressant, séduisant pour les personnes valides, qui plaisent à l'œil et qui plaisent aux graphistes, on a du mal à en trouver. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que c'est un terrain de jeu pour les graphistes. Il faut s'en emparer. Mmh. Il faut avoir ces réflexions-là et il faut s'emparer de ces sujets-là. Enfin, graphiste de France et de Navarre, intéressez-vous à l'accessibilité, quoi.
carrément, on lève le point très haut du côté de Sabrina.
Non, mais c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si on peut dévoiler des choses, mais il y a un projet où on travaille vraiment sur le rapport entre l'émotion et comment on peut faire ressentir quelque chose à travers des formes et comment ces formes peuvent être appropriées par des personnes qui n'ont plus la vue ou qui ne s'autorisent pas à dessiner ou qui se sentent pas légitimes dans quoi que ce soit. Donc en fait, c'est hyper intéressant, c'est des espaces d'exploration en fait infinis.
Le hackathon se poursuit à l'hôtel Pasteur jusqu'à vendredi et puis après quoi, ben oui, les équipes présenteront leurs travaux, un jury de professionnels au sens aiguisé et puis aussi avec une compréhension des consignes, j'imagine, et des contraintes qui présidaient à ce hackathon. Vous avez déjà, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire la veille de la fin des travaux, des petits favoris, des petites favorites dans les équipes, où on est impartial forcément puisqu'on est l'équipe encadrante.
Non, les résultats c'est demain et tout est encore possible.
Ouais, tout est encore. Oui, et puis oui, c'est ça, c'est demain. Et en tout cas, même s'il y a deux choix qui vont se faire demain, on y a quand même des prises de conscience et des processus hyper intéressants dans toutes les équipes. Donc c'est ça aussi qu'il faut noter. Et moi, je voudrais revenir sur les notions d'ambition du après. Je pense qu'à une ambition à moindre échelle, mais qui est quand même somme toute très importante, c'est que on a démarré le hackathon avec donc à peu près 35 personnes et une seule personne qui avait déjà été à nos futurs. Je pense qu'on finit le hackathon. À mon avis, il faudra qu'on fasse les statistiques. Mais à mon avis, il y aura au moins plus de 60% des gens qui ont participé à cet hackathon qui iront à nos futurs. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre aussi, c'est que cette notion de faire participer les gens et de travailler collectivement, ben c'est aussi des endroits de médiation et où on va se sentir ambassadeur et légitime à aller vers des endroits où on se sent pas concerné, où on se sent pas légitime.
Ensemble, on va plus loin.
Voilà.
Eh bien, ensemble, cette équipe-là, je ne sais pas laquelle c'est, vous proposera donc vendredi. Elle aura été élue par ce jury et on verra le résultat, pas tout de suite, mais dans quelques mois, sur les murs, et peut-être pas que sur les murs, sur le sol peut-être. Et vous l'entendrez peut-être dans vos oreilles aussi, cette identité qui ne sera pas que visuelle, mais qui sera forcément graphique aussi un peu, hein, forcément. Il y en aura une composante graphique. Merci à vous trois, Marie Chardonnay, et puis Laurence Schulz, et puis Sabrina Morisson.
Je rappelle donc que le festival Nos Futurs est porté par Les Champs Libres, Sciences Po Rennes et le journal Le Monde, et que les trois écoles qui ont participé, c'est le lycée Bréquigny avec son DNMAD, l'école des Beaux-Arts de Rennes et l'ISA Rennes.
Bonne chance aux participants, aux participantes. Merci à vous et bonne fin de hackathon.
Merci.
Bacchante, extrait de l'excellent album Pas un bruit, sorti sur le label Figure Libre. Nous arrivons vers les deux dernières parties de l'émission Le Grand Tout. Tout à l'heure, deux extraits des albums découvertes pour les radios de la Ferra Rock cette semaine. Et puis maintenant, les infoconcerts qui vous emmèneront du côté de la Paillette le samedi 16 novembre. Dans le cadre du festival Jazz à l'Ouest, vous pourrez retrouver le Grand Groove Orchestra avec un DJ set aussi autour du label Blue Note et des Blue Note Grooves. Et puis on parlera aussi de cette soirée proposée par From Town to Town et Prix Libre le 22 novembre. Ce sera au Marquis de Sade avec Société Étrange et Prix Libre. Le plus célèbre orchestre de Nantes, rien de moins, le Grand Groove Orchestra, 8 musiciens dont un DJ qui rendent hommage au célèbre label Blue Note. Alors c'est plus qu'un hommage, ils s'en inspirent, mais ça va un peu au-delà. C'est la période 70s et 60s qu'on a appelé par la suite les Blue Breakbeat, avec des standards de Lou Donaldson, Donald Byrd, Herbie Hancock et puis quelques compositions originales. Le Grand Groove Orchestra vous montrera qu'on pouvait mélanger jazz, musique latine, soul et funk. Et puis il y a une ambiance aussi visuelle appropriée, avec des pochettes de disques, des extraits de films qui habillent les murs pendant que la boule à facettes fait son job sur la piste de danse. Et ça se termine donc par un DJ set. Les musiciens du Grand Groove Orchestra, ce sont Simon Marie, Jean-Patrick Cosset, Guillaume Julien, Marc Delouya, Yvan Tamayo, Franck Bouvier, Pierre-Yves Merel, et puis le DJ sélecteurs et les coloriages sonores sont dus à Laurent Allinger, ancien membre du groupe disparu désormais, les Little Rabbits. On écoute Grand Groove Orchestra avec ce titre Bamboo, une reprise d'un titre de Melvin Sparks. des musiciens nantais et rennais aussi, le Grand Groove Orchestra, un groupe qui révère le son extrêmement irrésistible quand même et très groovy du label Blue Note. Vous les retrouverez lors de leur passage à La Paillette pendant le festival Jazz à l'Ouest. Ce sera le samedi 16 novembre. On va poursuivre avec un autre type de concert, hein, celui proposé par From Town to Town et Prix Libre. Ce sera au Marquis Salle le vendredi 22 novembre. Vous allez les entendre, les Lyonnais de Société Étrange, un trio instrumental, basse, percussion, machine, pour un trip psychédélique entre krautrock et puis ambiance un peu dub. On écoute un titre de Société Étrange sur la piste, le joueront peut-être lors de leur passage au Marquis Salle. Vous retrouverez aussi Prix Libre le même soir, c'est-à-dire le vendredi 22 novembre. Du titre sur la piste de danse bien sûr de Société Étrange, à retrouver grâce à From Town to Town au Marquis Salle le vendredi 22 novembre avec aussi Prix Libre. On va terminer le grand tour aujourd'hui avec encore une fois et l'avant-dernière, on retrouvera aussi les deux artistes qu'on va entendre maintenant dans l'émission de vendredi, une dernière fois avec les découvertes Ferrarock de la semaine, le duo O et leur deuxième album Songs of Wishes and Bones. Ils viennent de la musique électronique et ont eu envie peut-être de se découvrir un peu plus pop sur cet album-ci sorti sur le label Infine. Et puis on écoutera juste après Kiddus Eye, Baz Baz et Chiki, un trio qui mélange et malaxe le reggae, la country, le blues, la soul sur cet album The Salmon, un album d'ailleurs à gagner cette semaine sur canalb.fr. il est sorti grâce au label X-Ray Production le 18 octobre dernier. On termine donc l'émission avec Arena par le groupe OO et puis juste après le titre Knocking par Kiddus Eye, Baz Baz et Chiki. On se retrouve vendredi pour une dernière émission Le Grand Tout cette semaine sur Canal B avec la présentation de la première soirée Dig 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 concoctée entre les trans, Lubu et puis Mourir Bête. Et puis on parlera aussi avec Vincent, contrebassiste du groupe Orchestre Tout Puissant Mars, celle du chant, à retrouver la semaine prochaine dans le bel événement que propose l'Antipode Cool Thing. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. I'm in the race, I know the pace, come on, come on, and look at me, come on, come on, try to catch me. Thank you.
Knocking, knocking, knocking.